Alors, si on reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, vous avez plusieurs théories qui vont nous permettre de considérer l'importance du dirigeant dans la définition de la stratégie et dans les choix stratégiques. Ces théories se déplacent sur un spectre avec d'un côté l'importance du dirigeant dans le choix stratégique qui peut être considéré comme relativement fort, relativement élevé, et de l'autre, l'importance du dirigeant, au contraire, qui est faible, car la stratégie va être déterminée par les conditions sectorielles, par les conditions conjoncturelles. Bon, prenons tout d'abord cet axe où le dirigeant a un rôle très important. Donc on a vu apparaître un petit peu cette définition, notamment dans les années 40, 50, 60, pendant les 30 Glorieuses, où la croissance économique était forte, où il était facile de planifier de façon rationnelle les objectifs à atteindre. On considérait que la stratégie, c'était le résultat d'une décision rationnelle, où on allait comparer les bénéfices attendus par rapport au coût, et où il était possible et facile de planifier ce qui allait se passer d'une année sur l'autre. À ce moment-là, les conditions de l'environnement ne pesaient pas beaucoup dans les choix stratégiques. Pourquoi ? Parce qu'il était facile de prévoir ce qui allait se passer dans la conjoncture économique et dans l'environnement de l'entreprise. On a considéré, un petit peu après, que le dirigeant avait toujours un rôle clé et moteur dans le choix de la stratégie, mais qu'il n'était pas forcément en mesure de planifier de façon précise ce qu'il allait se passer dans l'avenir de l'entreprise, qu'il n'était pas en mesure de planifier de façon précise la conjoncture, de prévoir les événements qui allaient se produire, mais par contre, qu'il avait une capacité très importante pour réussir dans ses choix stratégiques. Il était capable d'avoir de l'expérience, il était capable de tirer des leçons des décisions prises et d'avancer d'une certaine manière par essai-erreur de façon incrémentale pour définir une bonne stratégie. Donc, la stratégie, ce n'est pas forcément le reflet de quelque chose de purement rationnel, ça peut être aussi le reflet d'une forme d'apprentissage, d'expérience du dirigeant qui va pouvoir affiner ses choix grâce en tirant parti des leçons de ses erreurs. De façon intermédiaire, donc dans une logique de conception où finalement la stratégie se trouve à mi-chemin entre les capacités du dirigeant et la contrainte de l'environnement, on considère que finalement l'environnement peut être extrêmement turbulent parce que prenez par exemple l'exemple d'une hausse du baril de pétrole. Bon, la hausse du baril de pétrole peut avoir des incidences sur les matières premières importées, sur la facture énergétique. Et finalement, le dirigeant, dans son entreprise, ne contrôle pas cette hausse énergétique. Mais il l'a subie. Donc cette complexité dans l'environnement, le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes, pousse à concevoir et analyser le dirigeant comme un facteur de réduction d'incertitude. Le dirigeant, dans un environnement turbulent, sert à réduire l'incertitude et à atténuer les troubles qui peuvent se produire dans l'environnement parce que, par exemple, il va avoir une vision stratégique, il va avoir une capacité de se projeter dans l'avenir sans modèle de décision, sans planification extrêmement rationnelle et développée, par son expérience, par sa connaissance du secteur, par ses capacités d'intuition. Et donc, il aura cette faculté de réduire l'incertitude dans l'avenir, dans un environnement complexe et difficile. C'est la perspective retenue par notamment Henry Mintzberg. Bon, pour un auteur comme Granovetter, au contraire, la stratégie, c'est moins le reflet des capacités de réflexion et d'analyse du dirigeant, de sa vision stratégique, de son expérience, de sa capacité à planifier, que le reflet d'une culture, d'une identité d'entreprise, en considérant finalement que la stratégie est enfermée dans un certain nombre de règles, de valeurs, de comportements, de codes institutionnels. Et finalement, le dirigeant a très peu de capacité, très peu de pouvoir pour modifier ses règles et ses conventions dans l'entreprise et donc pour agir sur les comportements. En considérant que les comportements des acteurs et donc les choix stratégiques dans l'entreprise vont davantage relever d'une culture, d'une identité d'entreprise. Et qu'il est très difficile de transformer, de modifier cette culture, cette identité d'entreprise, héritée de l'histoire de l'entreprise, héritée de pratiques et de conventions. Autrement dit, le pouvoir du dirigeant est beaucoup plus faible et la stratégie est davantage déterminée ici par la culture de l'institution, par l'identité de l'entreprise. C'est également la perspective retenue par Carl Weck. Enfin, vous avez une conception présentée par Annan et Freeman. Ces auteurs considèrent que la stratégie est déterminée, totalement déterminée, par les conditions de l'environnement. Ils font un parallèle avec la sélection naturelle des espèces vivantes. Ils considèrent que dans un environnement donné, l'évolution des espèces est conditionnée par la capacité d'adaptation à l'environnement. L'espèce vivante qui n'est pas capable de s'adapter disparaît et les autres survivent. Eh bien, pour Annan et Freeman, c'est exactement ce qui se produit dans l'univers des entreprises. Vous avez des populations d'entreprises qui vont être confrontées à un environnement où les ressources sont rares. Les entreprises qui vont survivre sont celles qui vont être capables de contrôler ces ressources, de les acquérir, au détriment, bien sûr, des autres qui n'auront pas ces ressources pour survivre ou se développer et qui vont disparaître. Donc cette théorie, appelée l'écologie des populations, que l'on appelle l'écologie des populations, considère qu'il existe un processus de sélection naturelle des entreprises les plus compétitives, des entreprises qui vont survivre parce qu'elles seront le mieux adaptées à leur environnement. Alors, c'est vrai que si on se projette un petit peu dans l'histoire économique, on a un petit peu ce sentiment. À certains moments de l'histoire économique, on considère, par exemple, que « big is efficient », c'est-à-dire que plus l'entreprise est de grande taille, plus elle est protégée, d'une certaine manière, des risques liés à la compétition, parce qu'elle va réaliser des économies d'échelle, diminuer les coûts, etc. Puis on passe à une conception small is beautiful, parce qu'on considère que si l'entreprise est de grande taille, eh bien elle ne va pas contrôler ses frais de fonctionnement, elle aura du mal à être flexible. Si l'environnement est changeant, elle va, d'une certaine manière, être affaiblie et perdre ses capacités. Donc à nouveau, on considère, quand on raisonne de cette manière, que l'environnement conditionne la stratégie de l'entreprise et conditionne sa capacité à survivre parce qu'elle va être adaptée à l'environnement.